Radio Kapi.
Plus de mobilisation et d'apport au bénéfice des plus d'un million de déplacés du fait de l'activisme des terroristes du M23 dans le Nord Kivu, MSF, Médecins sans frontières, alerte en vue de la prise en charge de toutes ces personnes pour qui les besoins sont importants. Un mot vous sera donné en rapport avec le procès du député Mwanga Chouchou qui s'est poursuivi hier avec l'ouverture du coffre-fort saisi chez lui. Il est poursuivi pour des infractions présumées de participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Gilbert Kabanda, actuel ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique et ancien ministre de la Défense, intervient en fin de cette édition comme invité. Il parle des perspectives au sein de ce nouveau portefeuille et des grands faits durant son passage au ministère de la Défense. Merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à Radio Kapi pour votre information. Fidèles auditeurs, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Crise humanitaire dans le Nord Kivu, l'ONG Médecins sans frontières appelle à un sursaut de mobilisation. Dans un communiqué émis hier mardi, le MSF parle de plus d'un million de personnes qui se sont déplacées les 12 derniers mois pour fuir les combats liés à la résurgence du groupe armé M23. L'ONG humanitaire s'inquiète cependant du fait que la réponse ne soit pas à la hauteur des besoins. Bernard Nyangi.
Seulement 3000 abris pouvant accueillir environ 15 000 personnes déjà construits autour de Goma. Depuis le début de la crise, moins de latrines, à peine un litre d'eau est distribué à chaque déplacé dans les camps jusqu'à présent pour ne citer que ces cas. Ce qui pour le représentant pays des MSF requiert une forte mobilisation. Raphaël Pirette.
Juste pour donner un exemple, à Boulengo, on dénombre une latrine pour près de 500 personnes. Dans un site voisin, à Lushagala, les personnes déplacées doivent survivre avec à peine un litre d'eau potable par jour. Et là, on est très très loin des 15 litres quotidiens qui sont recommandés. Au cours des derniers mois, on a vu une explosion des cas de rougeole et de choléra. Nos équipes sont à pied d'œuvre, mais de nouveau, on est complètement débordés. Et donc, on appelle la communauté humanitaire et les autorités à redoubler d'efforts, tandis qu'on appelle aussi les parties au conflit à faciliter l'accès des organisations humanitaires partout.
Et à l'intérieur de la zone occupée par les rebelles, le MSF est la seule ONG qui intervient par exemple dans le territoire de Rutshuru, alors que dans la zone, le déplacement des lignes de front a coupé les routes principales d'approvisionnement, notamment en médicaments et en produits de première nécessité, enclavant ainsi des milliers de familles qui y vivent encore. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Sur le plan sécuritaire, sachez que le contingent ougandais de l'EAC a finalement été installé lundi à sa base située au centre de Bunagana. Nos sources locales affirment cependant que le retrait annoncé des rebelles de cette cité frontalière avec l'Ouganda ne s'est pas totalement achevé. Le mécanisme de vérification ad hoc issu de la feuille de route de Luanda vérifie cette situation, ajoutent les mêmes sources. Blaise Shindani.
Après la base de Kibaya dans l'est de Bunagana, où le contingent ougandais était encore basé, depuis son entrée officielle en RDC dans le cadre de la force régionale de l'EAC, ce n'est que lundi qu'il a pu s'installer officiellement à sa base au centre de cette cité frontalière. Selon plusieurs sources, la situation de Bunagana reste cependant très confuse. Les militaires ougandais de l'EAC cohabitent contre toute attente avec les rebelles dont le retrait de la cité n'est pas encore effectif. De plus, des sources de déplore la gestion des mouvements migratoires à la douane de Bunagana jusqu'à présent par les rebelles du M23. L'administration civile installée par les rebelles serait toujours à l'œuvre et des militaires du M23 occuperaient les maisons de certains habitants en déplacement après en avoir cassé les portes. Nos sources au sein de l'EACRF confirment l'installation de la base du contingent ougandais à Bunagana. Mais pour la question du retrait du M23, elles affirment attendre le rapport du mécanisme ad hoc de vérifier pour d'autres précision. Dans l'ouest du territoire de Rutshuru, en groupement Tango, chefferie de Buito, mais aussi dans les Bachali, territoire de Masisi, une accalmie règne ce mardi. Toutefois, certaines sources accusent les rebelles de former et d'armer certaines milices locales. Cette situation intensifie l'instabilité dans la région où l'on signale encore la présence du M23.
Toujours dans le Nord Kivu, le gouverneur salue les efforts fournis par les armées congolaises et ougandaises dans les opérations conjointes Shuja contre les ADF dans la région de Beni. Le général Constant Dima l'a dit hier mardi à son arrivée à Beni.
Il regrette néanmoins que certains Congolais choisissent de rejoindre les rangs des ADF pour déstabiliser leur pays. Il les invite à un sursaut patriotique et à adhérer au processus de paix en cours au pays. Général Constant Ndima est au micro de Marc Marofimbo.
Nous saluons la bravoure de nos militaires, malgré la situation qu'ils connaissent et l'opération Souja depuis le début, qui avait donné beaucoup d'espoir à la population. À un certain moment, la population commençait à se poser beaucoup de questions. Je crois que l'opération Souja s'est refait quand même surface et nous saluons ses succès dans les Mwalika, où plusieurs bastions des ADF ont été démantelés et certains leaders aussi neutralisés. Nous regrettons à ce que les fils et filles aussi du milieu, c'est-à-dire les Congolais qui y font partie, nous ne les disons pas seulement en l'air, mais nous avons des preuves de collaboration avec ceux qui massacrent notre population, ce qui fait très 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 mal. Et nous venons voir tout cela ensemble avec les chefs d'état-major général.
Notons que le gouverneur du Nord Kivu est à Beni en prévision de l'arrivée dans la région du chef d'état-major général des FRDC et son homologue de l'armée ougandaise. De son côté, le bourgmestre de la commune de Mulekera, Beni, annonce l'organisation prochaine des patrouilles et bouclages pour faire face à l'insécurité dans son entité depuis quelques semaines. Le dernier cas en date remonte à dimanche dernier. Trois familles du quartier Ngongolio ont été visitées par des hommes armés qui ont emporté plusieurs biens de valeur. Selon le commissaire supérieur Dieudonné Ngongo Mayanga, ces dispositions vont permettre de garantir la quiétude de la population dans la commune de Mulekera. On l'écoute au micro de André Kitenge.
Comme nous avons la mission de sécuriser la population et ses biens, nous sommes en train de fournir les efforts comme on l'a toujours fait pour que notre population vive dans la sérénité, dans le calme. Nous sommes en train de travailler chaque jour, nuit comme les jours, pour que cette insécurité soit éradiquée. Comme cette situation a pris encore de l'ascenseur, nous travaillons chaque jour. Nous faisons des patrouilles, nous faisons des bouclages. Nous faisons aussi des bouclages ciblés, tout comme non ciblés. Donc, c'est le travail que nous faisons chaque jour pour que ces règles d'insécurité puissent prendre fin. Le message à lancer à la population, c'est le message que nous avons toujours lancé. C'est-à-dire qu'il y ait une bonne collaboration entre nous, autorités, entre nous, services de sécurité et la population. Et la mission, ou bien le devoir que nous avons toujours demandé à la population, c'est de dénoncer tous les cas suspects, dénoncer tous les malfaiteurs, de façon que, une fois si nous sommes informés d'une situation qui se trouve dans tel coin ou bien dans tel quartier, nous allons aussi intervenir à temps réel pour que la population ne puisse pas subir des conséquences négatives.
Ici à Kinshasa, la journée internationale de la sensibilisation et de l'assistance à la lutte anti-mine, célébrée le 4 avril de chaque année, a été commémorée au Musée national. Placé sous le thème « Action anti-mine au profit des réfugiés, des personnes déplacées internes et des communautés touchées par les conflits en RDC », cette journée a coïncidé avec le lancement du projet des minages humanitaires. C'est une initiative du service des luttes anti-mines des Nations Unies et du Centre congolais des luttes anti-mines avec l'appui de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. Vanessa Kongolo pour plus de détails.
Au cours de cette cérémonie, 40 jeunes ont obtenu leur diplôme sur l'éducation et risque de mine et enquête non technique après une formation. Herman Tumpa est l'un des 40 jeunes diplômés. Il a pris l'engagement de sauver des vies.
Le mine antipersonnel et les restes explosifs constituent imminence des vies humaines. C'est ce qui justifie notre engagement.
Emmanuel Lokinou, coordonnateur national du Centre congolais des luttes anti-mines, donne ici l'état des lieux de mine en RDC.
La République démocratique du Congo compte 33 zones minées par une surface de 370 569,13 m², qui sont réparties en 9 provinces. Nous comptons aussi 136 zones contaminées par le reste explosif de guerre. Nous comptons 3136 victimes déjà identifiées.
Dans ses efforts de trouver une solution à ces problèmes, UNMAS dit avoir lancé un projet. Jean-Denis Larsen, chef de service, explique.
Il s'agit d'un projet de déminage humanitaire. C'est un projet qui, d'une part, consiste en dépouiller des zones affectées par des restes explosifs de guerre, des mines antipersonnelles, dans la zone d'intervention de la mission. Donc, il s'agit de la province d'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu.
Justice à présent, le coffre-fort du député Édouard Mwanga Chouchou a été ouvert par la haute cour militaire hier mardi à la Banque centrale du Congo où il est gardé. Près de 3h30 ont permis à la cour et avec les avocats des parties au procès, le prévenu et sa femme, de faire l'inventaire de ce que cache ce coffre-fort dont le rapport général est attendu à l'audience de mardi prochain. Par ailleurs, des armes et munitions de guerre et d'autres effets découverts dans la concession du député Mwanga Chuchu ont été exposés ce mardi à la prison militaire de Ndolo à l'occasion d'une audience publique. Rappelons que le député national Édouard Mwanga Chuchu, comparé dans une procédure de flagrance pour des infractions présumées de participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale d'armes et munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline militaire. Il a été transféré de la prison centrale de Makala à Ndolo. Tous les sujets relatifs à l'évolution des droits de l'homme en République démocratique du Congo ont été abordés à Genève le 30 mars dernier au cours du dialogue interactif sur la RDC. C'est ce que rapporte le nouveau directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, Patrice Vahart, qui a lui-même pris une part active à cette session. Tout en reconnaissant la disponibilité de la RDC et son ouverture dans les échanges ainsi que les efforts dans la promotion des droits de l'homme, le haut fonctionnaire insiste sur la nécessité pour les autorités congolaises et les autres acteurs de la poursuite de la lutte contre l'impunité. Les propos de Patrice Vahart au micro de Honoré Missenga Kalala.
J'ai pour habitude de dire en fait, l'impunité, si on veut simplifier la formule, c'est le fait d'ôter à la société, à l'État, à la nation, à toute communauté, l'opportunité de se guérir d'un mal. Lorsqu'il y a l'impunité, l'auteur y pense être célébré et la victime désespère dans la société. C'est plus frappant surtout quand il s'agit du viol ou bien des violences basées sur le genre. Donc, lutter véritablement contre l'impunité, quel qu'en soit l'auteur et quelle que soit la victime, je crois que c'est quelque chose qui est assez important et il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits dans ce sens-là. Il y a beaucoup d'efforts qui se font dans le cadre de la justice militaire. Je crois que dans la justice civile également, nous devons continuer à pouvoir accompagner la RDC et tous les acteurs dans ce cadre-là, mais aussi servir d'exemple de ce que personne n'est au-dessus de la loi.
Radio Okapi poursuit la diffusion d'une série de productions sur l'Institut National de Recherche Agronomique INERA. L'INERA Molongo est victime de spoliation de son espace de travail. Des centaines d'hectares destinés à la recherche sont convoités par les privés et même certains services publics de l'État. Le comité de gestion actuel de l'INERA Molongo appelle à la protection de ce milieu écologique de recherche agronomique capital. Le point avec Emmanuel Elamejoua Kabedi.
Le centre de recherche de Molongo fut créé par le colonisateur belge et sa gestion avait été cédée à l'Institut national pour l'étude agronomique au Congo, l'INEAC, vers les années 1934. La grande concession de l'INERA Molongo se situe dans le territoire de Kabaré, à 5 km de l'aéroport de Kavumu, non loin du parc national de Kahuzi-Biega. Sa superficie initiale était d'environ 1114 hectares, dont 800 hectares à Molongo, 90 hectares déjà totalement spoliés à ce jour à Nyamunini, 160 hectares en voie de spoliation à Chinganda à Bunyakiri. L'on cite également des espaces de l'INERA Molongo à Lubarika dans la plaine de la Ruzizi et de Kalambi dans le secteur de Mwenga. Le directeur intérimaire, le professeur Dieudonné Katunga, regrette cette série de spoliations de ces milieux écologiques de recherche agronomique. Malgré cette spoliation, avec l'appui de certains bailleurs, un laboratoire de pédologie et de microbiologie est en cours d'installation. L'INERA Molongo compte à ce jour 317 agents, tous rémunérés par l'État congolais. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Retour ici à Kinshasa. La plateforme contemporaine des arts a présenté hier mardi son nouveau programme triennal 2023-2026 à son siège situé dans la commune de Barumbu à Kinshasa. Devant un public diversifié composé des artistes, journalistes et autres amoureux de la culture, les orateurs ont étalé en détail les différentes phases de ce programme qui entend accompagner les projets de création de plusieurs artistes dont les profils seront retenus après dépôt de candidature. 70% des projets seront ceux des femmes pour démontrer un certain équilibre au regard des années antérieures où ceux des hommes étaient les plus portés. On écoute tour à tour Dada Kayindo, directrice générale de la plateforme contemporaine, et Oracle Ngoy, artiste rappeuse et opératrice culturelle au micro de Sam Badimouke et Junior Ika.
Il s'agit de présenter le nouveau programme à la communauté artistique que nous accompagnons depuis près de 12 ans maintenant,
que nous allons travailler, il y a un nouveau programme qui consiste vraiment à offrir des résidences aux jeunes créateurs, aux créateurs en soi, des résidences de création depuis la genèse même du projet jusqu'à la phase finale, création finale, quoi, donc la phase de recherche, création et la présentation même finale.
Moi j'étais juste une artiste et face aux réalités liées par rapport aux artistes et aux défis et autres besoins, on s'est dit qu'il fallait créer des structures et des événements qui nous sont propres, où on a la capacité, la possibilité de montrer ce qu'on fait. Donc du coup, c'est là vraiment qu'intervient la plateforme, parce que la plateforme m'a formé de bout en bout, j'ai dit, pour chaque mot, chaque phrase, à devenir une opératrice culturelle.
Actualité internationale.
L'Organisation mondiale de la santé OMS a révélé aujourd'hui que l'infertilité est un problème plus courant qu'on ne le pense généralement, puisqu'elle touche près d'une personne sur six dans le monde, et qu'il s'agit d'un problème mondial sans différence significative entre les régions du monde ou inégalité dictée par la richesse. Selon les nouvelles données publiées, 17,5% de la population adulte connaîtra à un moment ou à un autre de sa vie l'infertilité, c'est-à-dire l'incapacité à obtenir une grossesse après 12 mois ou plus de rapports sexuels réguliers non protégés. Au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ou kidnappées dans une série d'attaques dans le nord-est et dans le centre du Nigeria, ont ainsi indiqué lundi la police et des responsables. L'insécurité est un souci majeur dans le pays le plus peuplé d'Afrique au moment où un nouveau président doit être investi le mois prochain à la suite d'une élection contestée par l'opposition.
L'invité.
Comme dit, notre invité, c'est le tout nouveau ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Gilbert Kabanda affirme que l'un des objectifs majeurs de son action sera de recenser tous les génies congolais qui, en 5 ou 10 ans, peuvent rendre la RDC un pays tout à fait différent de ce qu'il est aujourd'hui sur le plan de la technologie. Il revient aussi sur le bilan de près des 2 ans passés au ministère de la Défense nationale. Gilbert Kabanda s'entretient avec Pascal Masirika. Suivez.
Gilbert Kabanda, bonjour.
Bonjour Monsieur Masirika.
À la faveur du réaménagement technique du gouvernement décidé par le président Félix Tshisekedi Tshilombo, vous êtes militaire, général à la retraite, vous passez du ministère de la Défense nationale à celui de la recherche scientifique. Est-ce que vous êtes à l'aise, Monsieur le ministre?
Tout à fait, Monsieur Masirika. Pour la simple et bonne raison que, en tant que scientifique, je suis dans la recherche scientifique depuis plus de 30 ans. Par exemple, mon équipe et moi, nous avons mis en service le Dubase C, qui est un produit à 100% congolais, produit de notre recherche scientifique avec une équipe de pharmaciens, de médecins et d'autres congolais sur base d'un produit à 100% congolais.
Pour soigner quelle maladie?
Mais le Dubase C est un antiviral à large spectre, découvert pour lutter contre le VIH-Sida, et plus tard nous avons constaté qu'il avait des effets positifs sur le hépatite virale, notamment virale C et B, et tout dernièrement contre le Covid-19, qui a été médicament testé aux cliniques universitaires de Kinshasa et en présence de l'OMS, qui a pris acte de cette confirmation que le Congo détient un médicament contre le Covid-19 mis au point conformément aux normes de l'OMS.
Vous avez géré le ministère de la Défense nationale pendant près de 2 ans dans un contexte extrêmement difficile marqué par la guerre à l'est de la RDC. Quel diagnostic avez-vous fait et pour quelle thérapeutique, Monsieur le ministre?
Le diagnostic est à deux niveaux. Au niveau des effets de la guerre, nous les connaissons nous tous, mais au niveau des causes profondes de la guerre, nous ne les connaissons pas tous. Les causes profondes de la guerre, qui sont en fait, peuvent se résumer essentiellement en une guerre économique, tout le monde le dit, ces causes-là, nous devons chercher comment les combattre. Et l'unique combat qui soit le combat qui éradique définitivement cette maladie-là, si on peut l'appeler maladie, c'est de nous fortifier nous-mêmes contre cette agression, c'est-à-dire l'autonomie de défense pour la République démocratique du Congo.
Venons-en maintenant à vos nouvelles fonctions à la tête du ministère de la Recherche scientifique. Avez-vous déjà peaufiné des priorités en chantier pour ces secteurs multidimensionnels?
Je viens à peine d'arriver. Je suis en train de prendre connaissance de ce qu'est ce ministère, du moins tel qu'il est organisé. Le principe de la recherche scientifique et technologique, je le connais en tant que scientifique, mais je voudrais voir qu'est-ce que nous avons comme disposition politique, disposition administrative. Les objectifs, nous allons élaborer un agenda d'objectifs parce que le Congo a des compétences dans ce domaine, mais des compétences qui ne sont malheureusement pas encadrées par l'État. Je crois qu'un de mes objectifs majeurs sera de recenser tous ces génies congolais qui, en 5 ans, 10 ans, peuvent rendre ce Congo un pays tout à fait différent de ce qu'il est aujourd'hui sur le plan de la technologie.
Monsieur le ministre, je vous remercie.
Merci, monsieur Masirika.
Voilà comment se referme cette édition du journal sur Radio Okapi. Ce journal vous a été préparé par Pelé Kipelamondo et l'ensemble de toute la rédaction. Polydor Basunga a assuré la prise de son et la mise en onde. Et Billy Ivan Lutumbe était au micro pour la présentation au nom de toute cette équipe. Nous vous disons merci et vous témoignons toute notre gratitude.